Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de nous retrouver pour notre rubrique « Le temps des jardins ». Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir à RCF M. Samuel Craquelin. Bonjour Monsieur Craquelin.
Bonjour madame.
Je suis heureuse de vous rencontrer parce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup compté dans le paysage de la Normandie. Vous travaillez les paysages de Normandie depuis combien de temps ?
Eh bien écoutez, ça fait un peu plus de 30 ans. Voilà. J'ai commencé mon activité il y a environ 33 ans. Voilà.
Et il me semblait que là, beaucoup de nos auditeurs, en fait, vivent dans des lieux que vous avez transformés, que vous avez fait revivre. Quels sont les chantiers qui vous ont le plus marqué, dont vous êtes le plus fier peut-être aujourd'hui ?
Écoutez, je vais commencer par celui dans lequel je suis actuellement, puisque vous m'interviewez à Bayeux. Donc, Bayeux est un lieu que j'ai quelque part apprivoisé il y a maintenant une quinzaine d'années. Et j'avais pour mission de réveiller, si je peux dire, tout ce qui tourne au bord de la rivière Or, dans une dimension d'espace public qui tourne autour de l'eau, de la vue, bien sûr, sur la rivière, mais aussi du paysage à recomposer autour de cette rivière. Que ce soit des petites places, des jardins, des parcs, ou des relations de rue, des différents quartiers qui jouxtent l'or en question. Tout ça sur 5 kilomètres. Donc c'est une expérience pour moi formidable. Je suis très heureux de travailler toujours à Bayeux et de contribuer progressivement à apporter quelques petites pierres à l'édifice. Je pense que le paysage de Bayeux est un paysage vraiment magnifique, dans cette grande plaine avec cette cathédrale qui émerge de la plaine de Caen, hein, quelque part, et cette cathédrale invite à ce qu'on rentre dans cette ville protégée. C'est absolument magnifique. Après, d'autres lieux, oui, je pense à Wavre qui m'a occupé un certain temps pour la création des jardins suspendus dans un ancien fort militaire, où là j'ai dû en fait recomposer un site qui était un site historique, puisque le fort dit de Sainte Adresse à l'époque, qui est devenu maintenant le fort des Jardins suspendus, était une friche militaire dont le maire de l'époque, M. Antoine Ruffnac, a décidé de créer en fait une sorte de promontoire belvédère, un lieu onirique donnant sur la ville du Havre et sur le port, sur la mer, sur l'autre rive, pour que les Havrais se réconcilient avec ce lieu qui était abandonné. C'était un lieu de guerre, hein, un lieu de protection militaire qui avait été composé par des prisonniers russes après la guerre de Crimée. Et bon, ce lieu était plutôt mal famé, etc. Donc le maire a souhaité en faire un lieu onirique, qui tourne autour du rêve, donc, par tout simplement les sens que tout être humain peut avoir, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le toucher, le sentir, etc. Et le goût, tout simplement. C'est un maire qui avait beaucoup de goût. Non seulement un goût gustatif, mais un goût pour les belles choses et pour le paysage. Et je lui rends vraiment un hommage appuyé parce que Monsieur Ruffnac a eu à cœur de suivre ce lieu, ce projet qui a tourné autour de la plante et de l'histoire du Havre. Nous avons réconcilié, si je peux dire, à la fois l'histoire et tous les explorateurs contemporains de l'époque qui sont partis du Havre et qui ont découvert les terres lointaines et qui nous ont ramené beaucoup de connaissances au pays, dont des plantes, dont des animaux. Et je pense à Baudin, Le Sueur, Entrecasteaux, De Clieux, etc. Et tous ces gens qui, en fait, sont passés par cette plateforme tournée vers les océans qui est le port du Havre. Donc, c'est un lieu qui vit bien, qui est devenu maintenant Jardin botanique de France, le premier jardin botanique du XXIe siècle, et qui a pris en compte toute la dimension écologique et la dimension tournée vers les différents continents, où nous répertorions à peu près 6600 taxons.
Comment on pourrait définir ce métier qui est le vôtre ?
En fait, si vous voulez, le vrai terme, c'est paysagiste. Le terme technique, c'est architecte paysagiste, c'est-à-dire architecte des jardins et du paysage. parce qu'on est confondu souvent, quand on s'appelle paysagiste, à un entrepreneur de jardin. C'est-à-dire celui qui fait les travaux, qui plante les arbres, ou qui travaille le sol, etc. Or, l'architecte paysagiste est au paysage ce que l'architecte est au bâtiment, tout simplement. Donc il faut bien faire cette distinction. Moi, je serais même encore plus fier si je m'appelais tout simplement jardinier ou jardineur, ça me suffirait amplement. Simplement, les professions sont ainsi classées, c'est comme ça. Donc, nous composons effectivement, nous réfléchissons à la planification, nous travaillons sur des programmes de maîtrise d'œuvre, de réponse à des programmes très variés, allant d'un tout petit espace de 50 mètres carrés à des plaines entières ou des villes entières, où nous réfléchissons à la question de l'avenir des territoires. Donc ça, c'est une dimension programmatique de réflexion territoriale. Après, il y a tout ce qui me plaît, moi, personnellement, c'est la réalisation des projets. C'est-à-dire que j'aime beaucoup dessiner, je dessine beaucoup à la main, parce que c'est le prolongement de ma personne, et j'aime beaucoup ce lien que j'ai avec le crayon et ce que je vois. Et à partir de là, ce que j'aime, c'est me projeter dans l'avenir, et surtout pouvoir apporter le meilleur pour les gens. C'est-à-dire que je suis très admiratif de la création, par essence, mais aussi par croyance. C'est-à-dire que je suis très croyant, et je considère que le sacré de fait inexplicable, mais en même temps que nous devons travailler avec. Même si nous ne sommes que des humanistes et des non-croyants, il y a une part d'énigme, et il faut travailler de toute façon avec cette part d'énigme, ou avec cette part que je considère comme l'œuvre de Dieu, qui est la création en renouvellement perpétuel chaque jour. Donc, personnellement, j'y trouve mon épanouissement, et pour revenir à votre question, mon épanouissement passe par cette relation directe. Je le reconnais, je le dis même, et ça n'est pas, faire preuve de prosélytisme ou d'ostentation, c'est simplement dire que je compose, oui, avec celui qui nous guide, et je ne suis tout simplement qu'un instrument qui sert au grand jardinier, qui est celui qui est en haut.
L'homme, pourtant, autour de nous, a pas mal gâché ce paysage. Et l'œuvre de la création, souvent, a été malmenée. J'ai compris que vous aviez une forte fibre écologique, et vous avez peut-être de grandes ambitions pour les générations qui viennent dans ce domaine-là.
Je pense que, pour faire le lien avec ce que je viens de vous dire, au regard de la création, je pense que nous sommes tous dans le même bateau. C'est-à-dire que écologie, c'est écos. D'abord, c'est d'ailleurs notre maison, au sens du latin, du grec plus précisément. Et donc, l'écos, notre maison, est notre maison commune. On n'a pas le choix. On vit dans une maison, et cette maison s'appelle la Terre. Et donc, elle a été conçue en équilibre avec l'eau, la terre, le ciel, les plantes, les animaux et les êtres humains qui sont ce que nous sommes. Et on ne peut pas, dissocier cet ensemble. Cet ensemble ne peut fonctionner. La maison, terre, mer, qui nous porte et qui nous nourrit, ne peut marcher que si nous sommes tous, tous les éléments, capable de vivre ensemble. En fait, la question, elle est là. Et oui, l'homme a commis des actes sur la Terre qui ne sont pas bons pour l'équilibre en question de la Terre. Donc, personnellement, oui, je milite beaucoup pour cette question, et j'ai très vite compris par mes études que j'ai faites en Europe du Nord notamment, la question de l'écologie. Pour moi, l'écologie est primordiale. C'est l'écologie, l'économie et l'esthétique. Et on ne peut pas dissocier non plus l'économie, elle est au cœur de tout. Qu'on le veuille ou non, l'économie, elle est là, c'est un fait qu'il faut une économie pour faire marcher cette terre, comme toujours. Ça n'est pas d'aujourd'hui, cependant, il y a deux côtés, hein, deux sortes de stabilisateurs, hein, des deux côtés de l'économie. Il y a l'écologie, parce que c'est le socle, c'est la fertilité qu'il faut continuer à organisée pour que la terre soit toujours fertile. Et puis de l'autre côté, il y a l'esthétique. Pourquoi ? Parce que l'homme a besoin de bonheur. L'homme a besoin d'être rempli d'émotions pour vivre. Il a besoin d'être rechargé par ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il comprend. Combien de fois j'ai vu des gens en extase devant des lieux qui sont parfois très simples, mais tellement beaux, que ça suffit à recharger, j'allais dire, l'équilibre de l'être humain. Donc on a besoin de cet équilibre. Donc l'économie au centre, et nous fabriquons de l'économie pour vivre au quotidien. Alors il faut qu'on soit respectueux à travers cette économie. Et puis de l'autre côté, écologique, et en même temps fabriquer ce que j'appelle l'esthétique, mais en même temps, il n'y a pas que l'esthétique, c'est le beau, finalement. Le beau, et le beau, c'est la création, et la création, c'est simple et beau, voilà, tout simplement.
En Normandie, il y a une terre de culture très ancienne. Il y a des espaces ruraux, des espaces urbains. La règle du jeu n'est pas la même.
Un constat, les villes deviennent de plus en plus importantes. Les espaces ruraux deviennent de plus en plus désertiques. On a imaginé que le travail se passait en ville parce qu'il y a eu l'exode rural. Effectivement, nous avons vécu cette accélération du mouvement de la campagne vers la ville parce que le travail se trouvait plus en ville qu'à la campagne. Cependant, on s'aperçoit et on voit aujourd'hui dans un certain nombre de villes que ça pose des problèmes, que c'est pas si simple, que la ville devient très complexe, qu'elle devient polluante, qu'elle devient difficile à gérer, qu'il faut créer des équipements énormes et qui sont très consommateurs d'énergie. Et je pense que pour faire toujours le lien et le rappel à l'écologie qui est notre fil conducteur, notre fil rouge, l'écologie humaine aussi est un mot qu'on utilise peu. Je pense que on a besoin d'équilibre. Et que, oui, on peut faire des jardins potagers sur les toits. Oui, on peut mettre des balcons avec un peu de plantes. Oui, on peut mettre un peu de jardin public, un peu de parc, un peu tout ce que vous voulez, pour faire vert ou pour accompagner quelque part l'homme dans un qui se rattache à un milieu de chlorophylle, pour faire court. Et simplement, je pense que ça ne suffit pas. Je pense que nous sommes aussi des animaux, quelque part. Nous avons besoin d'espace, nous avons besoin de voir l'eau, nous avons besoin de toucher la terre, nous avons besoin de cultiver la terre, nous avons besoin de, pour notre propre équilibre, de vivre dans ces espaces-là. Et je crois profondément à deux grands sujets qui sont des sujets très hautement politiques et d'aménagement du territoire, qui sont la mobilité et l'urbanisme. Il faut arriver, je crois, à organiser une mobilité beaucoup plus adéquate. Pour permettre aux gens de vivre plus en accord avec le sol, ce que j'appelle l'humus. Il faut revenir aux fondamentaux. J'en parle de temps en temps dans certains lieux, même dans des lieux, je cite le dernier en référence, qui est le quartier du Ramponneau à Fécamp, sur lequel j'ai travaillé avec toute une série de couches de la population, un quartier de 4500 habitants avec des enfants, des adultes, des grands-parents, des personnes très âgées. Et on a travaillé sur la recomposition d'un espace urbain très dense où il y avait des tours, etc. Donc on a enlevé des tours, et on s'est dit, par quel angle pouvons-nous apporter notre réponse? J'ai pris l'angle du H, c'est-à-dire de l'humus, associé au deuxième H qui est l'humain, au troisième qui est l'humilité. Et à partir de là, on a composé un projet. Et finalement, on s'aperçoit qu'il faut utiliser des mots simples et lisibles pour que se déclenche autour de nous toute une série de compréhensions et d'envies. Et c'est ainsi qu'on a créé au pied de ces immeubles un jardin clos qu'on a appelé l'Hortus Conclusus, un jardin de la création, un jardin clos, donc au titre de la création, tout simplement, en y mettant des légumes, en y mettant des fruits, en y mettant des fleurs, et on y a ajouté deux petits kiosques, l'un pour un jardinier, l'autre pour la pédagogie des enfants et des adultes. Et on s'est aperçu que, d'abord, il y avait une envie folle de ces gens qui ne connaissaient pas, parce que ce sont des générations hors sol, ne connaissaient pas le sol. C'est que dès qu'on réconcilie les gens avec le sol, ils sont heureux. Dès qu'on leur parle de la nature, dès qu'on leur parle des graines que l'on sème pour récolter, ils sont heureux. Et se crée aussi ce que j'appelle la vraie récompense, c'est le respect. C'est-à-dire le respect des espaces. si pas des personnes, parce que c'est long à réconcilier dans ces lieux où les gens sont malheureusement ont vécu des enfances difficiles ou aussi des problèmes de chômage très importants. Dans ce lieu, c'est 20% de chômeurs. Et finalement, on s'est aperçu que aujourd'hui, le quartier est très propre. Il est entretenu. Les enfants disent aux gens, écoutez, monsieur ou madame, avec votre chien, vous avez oublié quelque chose, etc.
Oui.
Et finalement, vous vous apercevez qu'il faut peu de choses, mais il faut des mots forts, des mots qui portent. Ça ne sert à rien de faire du verbiage qui n'en finit plus, des plaquettes papier glacé qui n'en finissent plus, tout ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est le concret, c'est-à-dire le sol qui nous porte, l'humus, ça veut dire quelque chose. L'humain, ça veut dire quelque chose. Et l'humilité derrière tout ça, ça couvre le reste. Et donc, le fait même de travailler sur des mots un peu forts comme ça apporte des bonnes réponses. Et on sait que c'est mature après. Et on sait que le projet marchera. Voilà.
Je suis très heureuse de pouvoir conclure notre entretien sur ces belles paroles d'espoir. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est du réalisme. Monsieur Craquelin, un grand merci d'être venu jusqu'à notre micro. Et on va vous laisser repartir parce que d'autres jardins et d'autres réalisations vous attendent.
Merci.
Et à bientôt sans doute. Au revoir.
J'espère.